Hey, hier, ma blonde, elle regarde le calendrier puis elle me dit, Jay, tu peux-tu croire que ça fait 5 semaines consécutives depuis la fête nationale qu'il n'y a pas eu de férié? On est brûlés. C'est vrai qu'on est brûlés, mais savez-vous quoi? C'est vendredi aujourd'hui, puis la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez de bon de prévu en fin de semaine?
Allô, c'est Léonard. En fin de semaine, on va faire beaucoup de vélo pour pouvoir aller à l'école. Mais avant, on va aller à la crème.
Yes! Allô, moi c'est Bruno. En fin de semaine, on va acheter les effets scolaires.
Oh!
Bonne journée.
Salut la gang de Rouge, c'est Annie. En fin de semaine, on s'en va faire la parade samedi soir en tracteur à Saint-Narcisse.
Oui!
Salut, ici c'est Mère-Pierre. Moi, je travaille toute la fin de semaine. Ah. Fait que je vais écouter Rouge le matin en allant travailler. Bye-bye.
Nous, en fin de semaine, je fête ma fête samedi avec des amis.
Bonne
on
fête.
Fait un party piscine.
Oui!
Et un vin et fromage. Bonne fin de semaine.
Allô, moi c'est Nathalie de Rimouski. J'ai de la teinture à faire en fin de semaine et c'est sûr que j'écoute Rouge FM car ça me fait garder le sourire. Merci, bonne journée.
Oh yes!
C'est quand ça va bien que c'est un de ces matins. Quand ça va bien que c'est un de ces matins. Quand ça va bien ou que tu travailles pas demain. Quand ça va bien. Ben oui, c'est la fin des semaines de la construction, mais c'est pas grave, on a encore du beau temps de prévu pour encore une belle grosse semaine des grandes fêtes. Ah ouais, bon week-end!
En semaine 5h25, écoutez On est tous debout avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 102.9 Rouge.
Rouge!
Durant la cérémonie olympique, pendant la remise des médailles, les athlètes font toute la même faire invariablement, si bien que le compte Twitter des Jeux olympiques de Tokyo a cru bon faire une petite mise à jour pour les internautes et également tous les athlètes. C'est-à-dire, on vous confirme officiellement que les médailles de Tokyo 2020 ne sont pas comestibles. Nos médailles ont été faites de matériaux recyclés, d'appareils électroniques qui ont été donnés par le public japonais. Donc, vous n'avez pas besoin de les mordre pour confirmer qu'ils sont véritables. Nous vous le confirmons, mais ça n'a pas empêché les athlètes de continuer de croquer leurs médailles. Pourquoi qu'ils font ça? Ben, c'est sûr que la première fois que ça s'est passé, c'est un vieil adage qui dit qu'il faut que tu croques de l'or pour être sûr que c'est de la véritable. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'on sait que c'est vrai en croquant de l'or pour vrai. On n'a pas de compétences là-dedans, mais ça a tellement été une image forte et les photographes adorent ça parce qu'on peut voir toute l'expression faciale et la joie, la fierté dans les athlètes et on peut faire un gros plan sur leur visage et aussi la médaille qui est l'icône même de la victoire du champion, on s'entend. Alors, tu sais, ça a une valeur photographique très riche, autant pour la vidéo que la photo. Ça donne des beaux moments et de belles photos très évocatrices. Alors, c'est pour ça que à un moment donné, il y a un athlète qui a fait ça et les gens ont fait « Wow, c'est donc bien beau ». Et l'image est tellement restée forte dans l'esprit des athlètes que eux, ils font beaucoup de projections. Hein. C'est des athlètes qui se projettent dans le temps et qui espèrent avoir une victoire. Alors, c'est sûr que l'image qu'ils ont vue est restée dans leur tête, dans leur subconscient peut-être. Et quand ils s'imaginaient victorieux, ben ils s'imaginaient faire ça aussi. Et quand ils arrivent, ils le font. Et tu sais, ça a fait boule de neige. Ça fait que d'autres athlètes ont vu ça et ils se sont dit « Ben là, tu sais, dans l'empressement, dans l'émotion, tu fais la même affaire, c'est sûr. » Et ben encore là, les photographes, les journalistes trouvent que c'est une belle image et continuent de glorifier ça et de mettre ça en valeur dans leurs reportages. Et ben c'est une roue qui tourne. Alors c'est pour ça que c'est devenu une tradition et que encore aujourd'hui les athlètes font ça. Est-ce que c'est véritablement bon? Non, pas vraiment. De toute façon, ce n'est pas de l'or véritable, ce n'est pas de l'argent ni du bronze véritable. En fait, il peut en avoir, mais c'est souvent des alliages pour faire une couleur qui est la plus évocatrice. Également, parlant des athlètes, il y en a qui en gagnent beaucoup. On n'a qu'à penser, par exemple, à Michael Phelps, qui, lui, a remporté au total une affaire comme 28 médailles olympiques ou encore de Coupe du monde. Puis en 2012, on s'est rendu compte que pour les Jeux olympiques de Pékin, il a conservé ses médailles dans une trousse de maquillage enveloppée d'un T-shirt gris. Parce que là, des médailles comme ça, ça vaut de l'argent. On prend, par exemple, un boxeur comme Vladimir Klitschko qui... Selon CNN, à l'époque, en 96, aux Jeux d'Atlanta, il a vendu sa médaille d'or qu'il avait obtenue pour $1 million quand même. Et cet argent-là, il l'a pas gardé. Il a décidé de vendre sa médaille parce que pour lui, c'était un objet dont il avait pas vraiment besoin. Puis il s'est dit, je vais faire quelque chose de beau avec ça. Il a reversé les profits à la Klitschko Brothers Foundation, qui c'est une œuvre caritative fondée avec son frère Vitaly pour revenir en aide aux enfants pauvres de leur pays d'origine en Ukraine. Alors, tu sais, il y a quand même de belles choses à faire avec ça, mais les athlètes en général vont les conserver et en prendre très soin. Sauf que parfois, certains alliages sont plus faibles que d'autres, donc sont très sensibles aux égratignures, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des athlètes qui vont faire des pochettes personnalisées pour en prendre soin. Alors, si ces médailles sont fragiles, voulez-vous bien me dire pourquoi vous les mordez? Mais je pense pas que ça va empêcher les athlètes de le faire, par exemple. C'est des belles images, faut l'avouer, là. Quel est le sujet de discussion le plus discordant en couple qui risquerait de multiplier par deux vos chances de rupture? Il y a Suzy Martel qui nous dit les tâches ménagères. Très bon guess, ce n'est pas la bonne réponse. Julie Gontier qui m'écrit les horaires de travail et les heures supplémentaires. Ah, ça c'est intéressant parce que les heures supplémentaires, parfois, hein, la priorité n'est pas égale partout dans la famille, mais ce n'est pas la bonne réponse. Jennifer Smith nous dit les enfants, c'est pas ce que je cherche, mais elle a aussi dit l'argent. Ah ah ah, là ça devient intéressant, Jennifer. C'est l'heure de la chronique de Monsieur Gratteux. Monsieur Gratteux, vous me connaissez. L'éducation financière pour tous. Il y a les chercheurs de l'université de San Diego et de la Californie qui se sont penchés sur la cause principale de discorde dans les couples, et c'est l'argent. Ben oui, l'argent, c'est pas facile, hein, gérer l'argent en couple. Mais on s'est rendu compte que quand les couples discutent d'argent et qu'ils sont sur la même longueur d'onde dans un domaine précis, ils ont de très fortes chances de rester en couple longtemps, et ça enlèverait bien des risques. Mais OK, l'argent, mais là, on parle d'un domaine précis. C'est quoi? C'est l'investissement. Hey, c'est fou raide. Alors, si vous êtes en couple puis vous avez de l'argent de placer dans vos REER, dans vos CELI pour votre retraite, par exemple, il y a toujours un questionnaire qu'on vous pose avec votre conseiller financier ou un questionnaire en ligne pour votre tolérance au risque. La tolérance au risque dans des placements, ce que vous êtes capable de voir comme fluctuation dans les marchés ou aussi dans votre compte. On vous demande si du jour au lendemain, ton compte a baissé de 10%, comment tu te sens? Est-ce que tu gères bien avec ça ou toi, c'est plus l'horizon à long terme qui t'intéresse? Alors ça, c'est le questionnaire qu'on vous pose, votre tolérance au risque. Et si vous avez une tolérance au risque avec votre conjoint-conjointe qui est compatible, qui est semblable, c'est parfait! Si il y a une discordance à ce niveau-là, vous êtes moins tolérant au risque et lui ou elle est plus tolérante au risque. Oh là, attention! Parce qu'on s'est rendu compte que cette tolérance au risque-là dans les investissements est aussi relative à votre tolérance au risque et votre rythme de vie en général. Alors, si vous êtes du genre à prendre plus de risques, peut-être que vous êtes plus du genre à travailler beaucoup, à vivre beaucoup de manière frivole. Et là, ben, ça fait un décalage entre les deux personnalités et ça peut aller plus loin que juste l'investissement. Alors, ça en dit beaucoup sur votre personnalité. Puis on s'est rendu compte que quand les couples ont une tolérance au risque au niveau des placements qui est semblable, ben, ça va bien généralement au niveau de leur couple, mais dès qu'il y a un décalage, ils multiplient par deux leur risque de divorce prochainement. C'est fou raide, hein? Alors, la prochaine fois que vous allez dater quelqu'un, comparez vos comptes en banque, puis ça sera peut-être un gage de bon augure. À chaque fois qu'une personne de 100 ans et plus défraie la manchette, invariablement, on lui demande « C'est quoi votre secret pour la longévité? » Puis on en a entendu des vertes et des pommures. C'est-à-dire « Je bois une Bud Light à chaque jour. Je bois une Coors à chaque jour. Je bois un Pepsi à chaque jour. Je m'en fais pas avec la vie. Moi, je me chicane pas. Je règle mes problèmes au jour le jour. Ou je m'en fais pas avec la vie. » C'est tous des conseils qu'on a entendus. Sauf que ça, c'est ce qu'on contrôle. On a découvert quelque chose qu'on ne contrôle pas chez les personnes âgées de 100 ans et plus, qui est très prometteur pour améliorer la longévité de tout le monde. On s'est rendu compte que les personnes âgées, quand elles dépassaient autour de 100 ans, leur système intestinal et leur système digestif changeaient un peu. Le microbiote, c'est-à-dire toute la communauté microbienne, puis les bactéries qui sont là pour nous aider à digérer et assimiler ce qu'on a, commençaient à changer de façon particulière. On s'est rendu compte que dans les acides qu'on retrouve dans la bile, il y a des composés tout à fait nouveaux, rendus à 100 ans, qui se construisent et qui sont là pour protéger leurs propriétaires, dans le fond. Quand on va manger, ça va généralement aider à digérer et ça va aussi anéantir les bactéries qui peuvent être nuisibles, comme par exemple E. coli, la listériose, et il y en a un qui manque là, juste pour... c'est difficile également. On s'est rendu compte que les personnes âgées de 100 ans et plus, dans leur bile, il y avait une bactérie qui venait s'attaquer précisément à ces corps étrangers-là, si on veut, pour s'assurer qu'ils ne causent pas de problèmes de santé. Également, cette molécule-là, dans la bile des personnes âgées de 100 ans et plus, vient diminuer grandement l'inflammation chronique et diverses maladies infectieuses. Donc, on s'est rendu compte que ça changeait pour le mieux. Puis non seulement ça, c'est qu'en réalisant ça, il y a des professeurs de différentes universités à travers le monde se sont dit, ben on pourrait peut-être utiliser ça et mettre ça dans la nourriture, comme par exemple dans un yogourt, etc. Puis ça pourrait stimuler la production de cet acide particulier dans la bile de monsieur, madame, tout le monde, peu importe l'âge, pour favoriser justement notre protection à toutes ces maladies-là et ces problèmes potentiels. Et ça pourrait probablement rallonger notre vie. Alors, merci à tous ces gens de 100 ans et plus qui se sont prêtés à cette étude, parce que grâce à eux, nous aussi, on a de meilleures chances de se rendre plus loin. C'est fou, la science, pareil. Hein?
En semaine, 5h25. Écoutez, on est tous debout. Avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 102.9 Rouge.
Rouge!
Je suis convaincu que la majorité des Québécois à travers la province ont eu un test de COVID, de dépistage à un moment donné ou à un autre dans la dernière année et demie parce que le virus était présent. Si vous l'avez vécu, vous savez que c'est pas vraiment agréable comme test. De là à dire que c'est à ce point désagréable, je le sais pas, ça dépend comment ça se passe. Moi, j'en ai eu un, puis j'ai trouvé ça désagréable, mais pas la fin du monde. Si j'avais à me faire tester, j'irais pas avec des frissons, disons. J'irais, ça me tenterait pas tant, mais je le ferais, puis je saurais qu'à la fin, c'est pas si pire. Tu sais, ça dure 10 secondes. Fait que c'est pas... Honnêtement, là, c'est pas si mal. Sauf que pour des gens, ça peut être un élément stresseur, ceux qui se sont jamais fait stresser, tu sais, là, avec les couvillons, là. Bon, ça ne tente pas de nous faire chatouiller le fond de la narine, je comprends. Et c'est pour ça qu'il y a des tests alternatifs qui sont faits, comme le test avec gargarisme, qui encore est un peu marginal parce que la procédure d'or par les scientifiques encore en ce moment, c'est les couvillons, puis c'est correct. Sauf qu'on est en train d'évaluer l'efficacité du test par gargarisme et il y a l'université de Konstanz en Allemagne qui s'est intéressée et a fait un test avec des sujets qui étaient la moitié positifs, à moitié négatifs. Ils leur ont fait un test PCR avec les couvillons, ils ont regardé les résultats, ils ont noté les personnes. Après ça, ils ont fait le même test, mais avec le test de gargarisme. Donc, on prend un verre d'eau, par exemple, on se gargarise pendant un certain temps, le plus loin possible. Après ça, on recrache ça dans un petit pot, puis on va tester le petit pot avec un autre test PCR. Ça fonctionne de la même manière, puis on s'est rendu compte que le taux d'efficacité était à 100%. C'était les mêmes résultats qui sont sortis. Bon, c'était tous des sujets qui avaient des symptômes quand même, parce que l'étude est pas, c'était pas 2000 personnes, mais ça augure quand même très bien, puis on s'y intéresse parce qu'on se dit, si l'objectif c'est juste de tester le plus de monde possible, puis le moins qu'il y a de freins, mieux c'est. Les gens pourraient même faire les tests eux-mêmes de façon dirigée avec un professionnel de la santé pour s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art, là, évidemment. Mais c'est assez encourageant pour peut-être se débarrasser de cet écouvillon une fois pour de bon. Mais pour l'instant, ça reste le test le plus fiable qu'on a à faire jusqu'à temps que davantage de scientifiques se penchent sur la question dans le monde. C'est drôle, hein, moi, en devenant papa, j'ai souvent eu des discours comme quoi « Ah, ton enfant est physique. Ah, ton enfant, c'est un artiste. Ah, ton enfant, c'est un social. » Tu sais, comme si un enfant peut pas être les trois en même temps à différents niveaux. Et c'est drôle parce que le 102.9 Rouge, c'est la radio officielle des études douteuses. Et il y en a une qui nous provient de l'Université du Delaware qui s'est intéressée à comment augmenter le vocabulaire de nos enfants. Quelle étude conne, dans le fond, parce que je veux dire, ton enfant va développer son vocabulaire en grandissant de toute façon. Mais bref, je vais vous parler de l'expérience parce qu'elle est quand même assez surprenante. Ils ont pris des groupes d'enfants. Ils leur ont fait faire du sport, OK? Différents types de sport. Un groupe, ils ont fait faire des ateliers de crossfit, de petits crossfit pour les enfants. Un autre groupe, ils ont fait de la natation. Et le dernier groupe, ils ont fait du dessin. Et après, ils faisaient des exercices de vocabulaire, puis ils se sont rendus compte que ceux qui avaient fait de la natation augmentaient de 13% leur vocabulaire par la suite. De 13%! Faisait de la natation puis il se mettait à apprendre des mots. Fait que là, les spécialistes de l'Université du Delaware essayaient de comprendre pourquoi et ils se sont rendus compte que l'activité physique nous aide à améliorer nos compétences cognitives. Alors que moi, j'aurais cru qu'en faisant du dessin, en faisant quelque chose de créatif, t'allais peut-être augmenter tes compétences cognitives, mais non, finalement. Et pourquoi pas le crossfit? Ben, c'est là où est-ce que ça devient intéressant. C'est que le dessin, ça stimule pas assez le corps et le corps parle au cerveau et le cerveau est actif en étant physiquement actif. Mais là, on se dit, ouais, mais le crossfit, ça devrait être la même affaire que la natation, dans le fond. Ben non, parce que le crossfit, fallait que les enfants apprennent des nouvelles notions, comment forcer, comment utiliser cet objet-là, comment le déplacer, etc. Donc, le cerveau était déjà actif. Mais pour la natation, parce que les enfants savaient déjà nager, on leur demandait simplement que de faire des longueurs, par exemple, ben, c'était un peu de l'automatisme et de l'activation du corps. Et après, ils étaient quand même plus susceptibles d'apprendre. Et on a quand même appris beaucoup de ça, même pour les adultes. On s'est dit, apprendre quelque chose au niveau de l'activité physique, c'est peut-être pas le meilleur pour être au sommet de sa forme mentale. Alors, peut-être que faire un sport de façon presque mécanique, sans se questionner, sans avoir à penser à ça, c'est peut-être une bonne solution pour améliorer ses capacités cognitives. Alors, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je vous en ai parlé ce matin. Mais moi, avoir ma fille, clairement, je vais lui dire de dessiner plus souvent parce qu'elle parle, c'est l'enfer. 7h11. Bon, et maintenant, nouveau info. Étienne Gagné.
Le C3S confirme qu'il y a 86% de la population admissible au Bas-Saint-Laurent qui est vaccinée. Ça représente plus de 150 000 premières doses et 117 000 deuxièmes doses qui ont été administrées dans la région. Rimouski Kinéjet est la MRC du Bas-Saint-Laurent la plus vaccinée deux doses avec 62% de la population. La Matanie et la Métis enregistrent 57% alors que la Matapédia 55%. Le vaccin express est de passage au camping Saint-Damas aujourd'hui ainsi qu'à l'Agora Lyon d'Amqui samedi. Les pêcheurs pourront conserver un grand saumon de 63 cm et plus dans quelques rivières de la région. Comme il est prévu dans le plan de gestion du saumon d'Atlantique, la rétention d'un nombre de grands saumons peut être permise, mais uniquement dans les rivières précises qui ont atteint leur cible de gestion. Au Bas-Saint-Laurent, il est possible de capturer un grand poisson dans les rivières de Matane, Matapédia, Métis et Mistigouguèche. En Gaspésie, c'est les rivières de Madeleine, York et Saint-Jean qui sont permises. Une terrible bévue à Sherbrooke. Des policiers et pompiers de Sherbrooke ont jeté un corps brûlé d'une femme dans un conteneur à déchets du service de police, convaincu qu'il s'agissait d'un mannequin en silicone. On en parle avec la journaliste Fanny Lachance-Paquette de Nouveau Info Estrie. Fanny, bien des questions demeurent sans réponse à ce point-ci.
D'abord pour le service incendie et le service de police qui sont en attente d'informations pour bien comprendre le fil des événements. D'ailleurs, il y a du soutien psychologique qui est offert présentement aux employés du service, mais aussi pour la population générale parce que les médias n'ont pas été autorisés à poser de questions lors du point de presse parce qu'il y a une enquête du coroner qui est en cours sur cette mort suspecte. Le service de police a aussi impliqué le directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que le bureau des enquêtes indépendantes dans le dossier.
Une collision a fait un décès mercredi soir sur l'autoroute 85 à Rivière-du-Loup. Selon la Sûreté du Québec, un peu avant 22 heures, une camionnette qui circulait en sens inverse est entrée en face à face avec un camion remorque. La camionnette a ensuite pris feu après l'impact. À l'arrivée des services d'urgence, le corps a été malheureusement retrouvé dans le véhicule. Les occupants du camion remorque s'en tirent toutefois sans blessure grave. Une enquête est toujours en cours pour comprendre les causes de l'accident. Et finalement, au hockey, le Canadien a ajouté un autre Québécois à sa formation hier soir. L'attaquant Mathieu Perrault a signé une entente d'un an à 950 000 $. Le joueur de 33 ans a compté 9 buts et 10 passes en 56 matchs l'an passé avec les Blues de Saint-Louis.
Voici la capsule Rimouski 325.
Il y a des ateliers d'initiation à la planche à roulettes et à la trottinette demain de 10 à 16 heures au parc de planche à roulettes. Tout nouvellement inauguré, les animateurs expérimentés vont initier les jeunes de 5 ans et plus, mais il faut s'inscrire sur le site de la ville dans la section actualité. Regardez les activités de la semaine pour vous inscrire. Également entre 10 et 14 heures au parc de la gare, les bibliothèques municipales donnent rendez-vous aux amateurs et amatrices de lecture à leur kiosque. Ça vous prend votre carte de la bibliothèque et vous allez pouvoir emprunter des livres spécialement sélectionnés par l'équipe. Il y a un parcours littéraire qui fait sa place au Brise-Lames de 9 à 17 heures, toujours demain. C'est un deuxième parcours littéraire inspiré des témoignages recueillis au sujet de l'histoire de la ville. Également, on vous offre un parcours, ben pas un parcours, mais un atelier de Qigong et de Tai Chi au parc Beau Séjour, demain de 10 à 11h30. C'est pour tous les âges, tous les niveaux, et il y a quelques places qui sont encore disponibles. On peut s'inscrire pour participer. Et aussi dans le quartier Sacré-Cœur, demain de 13 à 19 heures, dans le centre communautaire de Sacré-Cœur, il y a la crème molle ambulante qui sera là. Puis en plus, demain, il va faire beau, on va pouvoir en profiter. Il y a un jeune médecin en résidence qui soudainement se prend d'affection pour une patiente de la fameuse chambre 7. Il décide de commencer une course folle contre la montre. Il va lui raconter avec humour, sensibilité, des histoires de son quotidien dans le milieu hospitalier pour la maintenir en vie jusqu'à ce que son fils, qui est bloqué à l'étranger, puisse arriver. Ça, c'est la splendide histoire de la pièce de théâtre Alors voilà, qui est en vedette au Théâtre du Bic avec l'acteur de la région Vincent Roy dans une mise en scène de d'Or Belzile avec une musique et un environnement sonore fait par Vincent Roy lui-même et aussi Antoine Létourneau-Berger, que vous connaissez peut-être. Les billets sont en vente en ligne et au téléphone seulement au plus tard 2 heures avant le début des représentations pour le Théâtre du Bic. C'est jusqu'au 14 août, mais là, faut faire attention parce que afin de vous accueillir de façon le plus sécuritaire possible, on a élaboré un guide adapté. Faut porter le couvre-visage en rentrant. Il y a des places qui sont limitées. Il y a des sièges qui sont espacés avec les règles en vigueur. Alors, c'est important de réserver d'avance au Théâtre du Bic pour aller voir la pièce de l'été avec des talents régionaux. En fait, un talent régional, c'est Vincent Roy. C'est jusqu'au 14 août, c'est chaque soir à 20h. Théâtredubic.com pour davantage de détails. On part en voyage culturel dimanche. Entendez la voix de Jean Leloup derrière, mais c'est l'œuvre de Elage Diouf, des frères Diouf. Vous avez certainement... En fait, tous les Québécois ont entendu les frères Diouf. Dans la chanson « Tassez-vous de là, les colocs », c'est là qu'on les a découverts au grand public et ils ont continué leur carrière. Les frères Diouf viennent du Sénégal, chantent le Wolof parce que ça a une belle musicalité, chantent aussi en français et sont installés au Québec pendant plusieurs années, ont eu la chance de collaborer avec de nombreux artistes francophones, dont Jean Leloup, avec qui ils gardent une belle relation. On compare souvent un des frères Diouf, Elage, à Peter Gabriel quand même, avec sa propre sonorité, ses propres couleurs, et il s'est lancé en carrière solo, je pense autour de 2013, avec un album qui a connu beaucoup de succès, avec bien des collaborateurs, notamment Francis Cabrel, t'sais, ça vous donne une idée. C'est un métissage de musique, et Elage Diouf arrive avec... En hiver 2021, un nouveau spectacle pour son nouvel album Woutico qui vous présente au Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Ce dimanche à 20h, vous allez pouvoir voyager confortablement installé dans le Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Il chante dans sa langue maternelle, mais s'exprime aussi évidemment très bien en français. Ses prestations sont remarquables, il fait participer le public, ses dansants, ses chantants. Ça va vous faire sortir de chez vous, puis sortir également, élargir votre culture. Alors, je pense que c'est un spectacle à ne pas manquer au Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Allez sur le site du Vieux Théâtre pour vous procurer vos billets. C'est ce dimanche à 20h.
Quand l'attente se fait longue, longue.
C'est la douce voix d'Ariane Roy qui nous attend au Vieux Théâtre de Saint-Fabien demain sur le coup de 20h et elle n'est pas seule. Il y a 4 têtes d'affiches féminines qui vont faire tomber les murs du Vieux Théâtre demain. La première, la tête d'affiche, c'est Ariane Roy qui est quand même la révélation Radio-Canada 2021-2022. C'est une jeune autrice, compositrice, interprète de Québec. Avec sa guitare, nous offre de la musique pop alternative, parfois forte en scène.
synthétiseurs, parfois plutôt acoustiques. Elle nous parle de sa vingtaine, également celle des femmes qui l'entourent avec des mots parfois doux, parfois cassants, parfois abrasifs. À côté d'elle, il y aura la Saguenéenne d'origine Poulain qui habite la scène musicale avec un rock féminin assumé. Il y a également Arachnide, une artiste multidisciplinaire autochtone basée à Montréal. Qui d'ailleurs a fait paraître un album qui s'appelle Dreamweaver, qui a fait partie de la longue liste Polaris. Alors, c'est un style d'électropop trap indie à ne pas manquer. Et finalement, la rappeuse d'origine éthiopienne établie à Montréal, Naya Ali, qui arrive avec un vent de fraîcheur sur la scène hip-hop québécoise. Vous voulez vous procurer vos billets, rendez-vous sur le site du Vieux Théâtre. C'est demain à 20h. C'est ainsi qu'on se laisse en ce vendredi. Passez un excellent week-end. On va se retrouver en forme lundi dès 5h25 avec toute l'équipe complète dont on est tous debout. C'est donc dire que Martin Brassard sera de retour reposé et calme, je l'espère. Émilie Gagné également. Et ça veut aussi dire le retour de nos quiz réguliers. Ça veut aussi dire le retour de Géopardy, un incontournable. Le quiz malpropre, fait ou faux. Le plus ou moins quiz. Tu m'en diras tant. Des affaires comme ça. Peut-être aussi que ce sera le retour de ces litigieux avec Pat Lavoie. Et une chose est sûre, c'est que ça va être pas mal moins de Jay en onde, pis ça, je pense que tout le monde gagne ça. C'est des farces. Félicitations à Annie Soucy qui aujourd'hui a remporté son laissez-passer quadruple pour aller voir le film de son choix au cinéma Lido en fin de semaine. Merci d'avoir participé au concours. Annie, je te contacte dans un instant. Je salue les gens de Saint-Narcisse qui vont fêter autrement le Festival La Fenaison avec la traditionnelle parade. Ah, ça, c'est cool. Profitez-en bien à distance. On se prépare pour le grand retour l'an prochain, j'en suis convaincu. Yeah! On est tous debout!